Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Un premier cargo transportant du maïs a quitté le port ukrainien d'Odessa. Il est attendu à Tripoli, au Liban. Au Liban, la fête de l'armée, célébrée comme chaque année le 1er août. Ce week-end, à l'occasion du discours du trône, le roi du Maroc Mohamed VI a une nouvelle fois appelé à des relations fraternelles avec l'Algérie. Aider les proches des victimes de féminicide, c'est l'objet de la Fédération nationale des victimes de féminicide, fondée il y a 2 ans. Sa présidente, Sylvaine Grévin, a été reçue il y a quelques jours par la nouvelle ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, la chorégraphe franco-libanaise Lamia Safieddine était l'invitée de Parcours ce week-end. Nous écouterons un extrait dans ce journal. Le premier chargement de céréales a quitté Odessa ce matin, direction le Liban. Il s'agit du cargo Razoni battant pavillon de la Sierra Leone. Il a quitté le port ukrainien à 8h17 ce lundi, conformément au terme de l'accord international avec la Russie. Chargé de maïs, le navire est attendu à Istanbul le 2 août et se dirigera ensuite vers Tripoli au Liban. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, salue chaleureusement le départ du premier bateau de céréales ukrainiennes et il a dit espérer que ce sera le premier de nombreux navires commerciaux. Le Liban célèbre comme chaque 1er août la fête de l'armée. À cette occasion, le président Michel Aoun a prononcé un discours dans la caserne de Fayadier. Il a notamment déclaré que l'absence de gouvernement aggrave les difficultés du Liban. Le Liban où se trouve le médiateur américain Amos Hochstein. Il est venu discuter du litige frontalier entre Israël et le Liban. Toujours au Liban, quelques jours avant le 2e anniversaire de la double explosion du 4 août, une partie des silos à grains du port s'est effondrée ce dimanche à Beyrouth, ce qui a ravivé le traumatisme des victimes de l'explosion du 4 août 2020. En France, encore plusieurs femmes assassinées par leur conjoint. Cet été, à Mantes-la-Jolie, une femme de 32 ans a été retrouvée morte vendredi au domicile de son compagnon avec lequel elle était en instance de séparation. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Fin juillet, une femme a été tuée au couteau par son compagnon sur le parking de son lieu de travail à Cavaillon. Dans les affaires de féminicide, les proches des victimes sont souvent désemparés. C'est la raison pour laquelle a été créée par Sylvaine Grévin la Fédération nationale des victimes de féminicide, reçue il y a quelques jours par la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome. Sylvaine Grévin nous explique dans quelles circonstances a été créée cette association.
J'ai donc perdu ma sœur Bénédicte en 2017, en avril 2017, qui était depuis de nombreuses années victime de violences conjugales. Donc effectivement, suite à ce décès, j'ai personnellement, ainsi que ma famille, constaté le vide institutionnel concernant l'accompagnement des familles de féminicides. Et durant 2 ans, donc surtout à partir de 2019, puisque j'ai rencontré d'autres familles, où là on s'est dit qu'il y avait nécessairement quelque chose à faire, notamment dans l'accompagnement des victimes féminicides. Donc la FNBF a été créée un an plus tard, donc en octobre 2020.
Alors justement, de quel accompagnement ont besoin les familles de victimes de féminicides ?
Alors, tout d'abord, les familles victimes de féminicides ont besoin d'un accompagnement psychologique, bien évidemment, puisque dès l'annonce du décès, elles ne sont pas prises en charge malheureusement psychologiquement, toujours à l'heure actuelle. Donc nous intervenons à ce moment-là, dès lors que nous sommes saisis soit directement par la famille, soit par des partenaires avec qui nous travaillons. Et nous mettons en œuvre immédiatement en fait une cellule psychologique par notre psychologue et nous travaillons également avec une plateforme qui s'appelle Psy&You qui dans un premier temps, peut écouter la famille, puisque la famille se trouve, comme vous l'imaginez, dans une profonde détresse, et notamment suite au décès, bien évidemment, de leurs proches. Et là, c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, nous les dirigeons vers notre service juridique. C'est-à-dire que, encore une fois, les familles de féminicides n'ont pas un avocat pénal dans la poche, parce qu'elles ne sont pas déjà préparées à ça, personne n'est préparé à ça. L'objectif est de les diriger vers un autre cabinet d'avocats, hein, spécialisé justement sur les féminicides, de telle façon à ce qu'ils soient parfaitement accompagnés.
La difficulté pour les familles, c'est qu'elles sont confrontées à des auteurs d'assassinats qu'elles connaissent bien, qui ont été des proches.
Tout à fait, tout à fait. Et parfois, alors pas toujours, hein, mais effectivement, parfois, vous êtes totalement démunis. D'ailleurs, ça a été notre cas. C'est-à-dire que durant des années, vous voyez, moi j'ai vu ma sœur porter plainte à plusieurs reprises, des plaintes classées sans suite, des plaintes qui ont été suivies des faits avec un auteur condamné. Et surtout, au départ, on vous présente finalement. Quelqu'un qui, a priori, semble tout à fait disposé à rendre heureuse votre proche, et en fait, c'est un leurre. Et vous vous en rendez compte, soit parce que vous sentez que votre sœur ou votre proche, finalement, change de comportement, s'isole, c'est-à-dire que la victime, en fait, ne vient plus aux anniversaires, ne vient plus aux fêtes, ne vient plus à toute invitation. Justement parce qu'à un moment donné, vous avez ce stratagème des auteurs aussi qui ont tendance à isoler leurs victimes pour mieux les maîtriser. Et ce qui va se passer, c'est que en tant que famille, eh bien, rien n'est fait pour nous. C'est-à-dire que là, vous êtes totalement démunis. C'est-à-dire que vous vous dites, mais comment peut-on faire pour l'aider ? Pour bien comprendre que les victimes de violences conjugales, à force d'être manipulées, dénigrées, s'opère en elles en fait un dysfonctionnement au niveau de leur cerveau, de leur compréhension psychologique. Et c'est très très compliqué pour des personnes non formées que sont les primo-confidents, c'est-à-dire les parents, les amis, les proches. Donc la seule chose, vous vous dirigez vers la gendarmerie ou les forces de l'ordre qui, eux aussi, vous indiquent tant que la personne ne dépose pas plainte, nous, on peut rien faire pour vous. Donc en fait, ça s'apparente presque, vous savez, à une secte en fait. Hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que là, vous avez affaire à une personne adulte qui finalement subit des choses terribles et qui est parfois dans l'incapacité de quitter l'auteur, et effectivement, vous avez déjeuné, vous avez mangé aussi avec cet auteur au départ, parce qu'il semblait bien sous tout rapport, et du jour au lendemain, vous vous rendez compte qui il est vraiment, et là, les choses deviennent très très compliquées.
Il faudrait donc faire évoluer la loi pour que les proches de victimes de violences conjugales puissent éventuellement faire intervenir la justice, même si la victime ne porte pas plainte.
Exactement. Et en fait, alors pour tout vous dire, le siège social de la FNDF se trouve donc à Rennes, et nous avons la chance, en tout cas sur ce département qui est l'Ille-et-Vilaine, d'avoir notamment la juridiction de Rennes, c'est-à-dire le parquet de Rennes, qui a développé il y a déjà quelques temps alors un dispositif qui s'appelle porteur de parole. Et ce dispositif porteur de parole, en fait, est destiné aux proches, aux familles qui finalement, ça peut être aussi même des voisins, qui se rendent compte de quelque chose d'inhabituel chez leurs proches et qui peuvent déclarer en définitive ce qu'il se passe, de façon à ce que tout de suite le parquet puisse prendre des mesures. C'est-à-dire que là, on passe même pas par la case gendarmerie. Donc là, il y a quelque chose qui est déjà fait sur l'Ille-et-Vilaine. J'ai rencontré lundi Isabelle Rome, qui est la ministre des droits des femmes. Je lui ai d'ailleurs parlé de ce dispositif qu'elle connaissait, de façon à ce qu'il soit généralisé sur l'ensemble du territoire français. Donc en fait, c'est vraiment en tout cas ce que nous souhaitons, parce que c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Ce dispositif, en fait, c'est un formulaire à remplir, que vous pouvez remplir en tout cas pour la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ou que vous pouvez donc télécharger et envoyer directement par mail au parquet d'Ille-et-Vilaine. Donc, très peu coûteux et que l'on pourrait mettre à disposition sur tous les parquets de France. Moi, je pense que un numéro unique permettant de soutenir donc les familles de féminicides serait totalement utile. En tout cas, la FNBF a fait tout un travail justement dans l'objectif de pouvoir accompagner au niveau national les familles de féminicides.
Il faut augmenter les crédits pour les associations impliquées dans ces questions.
Ah bah très clairement. Là, il y a aussi une grosse question de moyens. Nous aujourd'hui, vous savez, on aura 2 ans d'existence là en octobre 2022. Pour obtenir des subventions, c'est toujours très très compliqué et donc c'est vrai que ça nous impacte très clairement. Nous, on a besoin. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des gens bénévoles. Ce qu'on demande, la majorité des associations, c'est que globalement, sur l'ensemble, en tout cas, de tout ce qui devrait être fait pour des femmes victimes de violences conjugales et des aides, en tout cas, notamment pour les associations, c'est 1 milliard d'euros sur la table.
Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicides. Samedi, Mohamed VI a réitéré sa main tendue à l'Algérie à l'occasion du discours du trône. Le roi du Maroc a dit vouloir œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères. Mohamed VI a appelé les Marocains à préserver l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage à l'égard de leurs frères algériens. Dans son discours, le roi du Maroc a rappelé ses priorités, la réforme du code de la famille en faveur des droits des femmes, la protection sociale, le contrôle des prix et la vaccination pour combattre le Covid-19. Abdelmadjid Tebboune appelle les militaires au pouvoir au Mali à retourner à la légalité dans les meilleurs délais. Il réclame des élections. Le président algérien estime que certaines parties ne veulent pas que la situation s'améliore et que la dégradation de la situation au Mali aiguise les appétits de certains États. Le PIB de l'Arabie Saoudite a augmenté de près de 12% au deuxième trimestre 2022 grâce à la hausse des prix du pétrole, une activité pétrolière liée à la reprise des activités après le Covid, mais aussi à la guerre en Ukraine. En France, les 25 départements de la côte méditerranéenne placés en risque important de canicule. Les températures dépasseront 35 degrés au sud de la Garonne, en direction du sud-est, en remontant vers la région lyonnaise. Selon Météo France, les très fortes chaleurs vont se généraliser mardi à une grande moitié sud du pays. Le pic de l'épisode de chaleur sera atteint mercredi avec des températures oscillant entre 35 et 40 degrés. Samedi, l'invité de parcours sur Radio Orient était la chorégraphe franco-libanaise Lamia Safiedine. Extrait de cette émission.
Je suis chorégraphe, je suis pédagogue, j'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation, je suis libanaise, je suis interculturelle parce que la force des choses ont fait que j'ai vécu dans des pays très différents et longtemps, le Brésil, la Côte d'Ivoire, la Belgique, la France, ce qui fait que je me sens très interculturelle, parlant des langues différentes et je crois que tous ces voyages m'ont fait et défait.
Où êtes-vous née et où avez-vous grandi?
Je suis née à Conakry, en Guinée. Et à peine je suis née que le pays a pris son indépendance, ce qui est une bonne chose pour la Guinée. Du coup, j'ai grandi au Liban. C'est-à-dire, moi, j'ai ouvert les yeux au Liban.
Dans quelle région du Liban?
Mes parents sont originaires du sud, de Tyr, la ville de Sour, et très vite, on a grandi surtout à Beyrouth, pour la qualité des études scolaires. Mon père a choisi quand même si c'est sa ville natale, de nous amener plutôt à Beyrouth pour avoir de bonnes écoles.
Dans quel quartier de Beyrouth avez-vous grandi?
Au départ, à Badaro, et après, on était vraiment devant la forêt de pins. C'était vraiment un grand immeuble devant. Et ça s'appelait le rond-point Taïouné. Et malheureusement, on était à la ligne de démarcation. C'est la raison pour laquelle, au tout début de la guerre civile, on a dû quitter, parce que tout était derrière nous, Ain Remene, Sabra Chatila, c'était un peu plus derrière. Enfin, on était vraiment sur une ligne de démarcation. Je pense que comme l'immeuble était haut, la première bombe est rentrée dans notre immeuble. Et on a dû quitter en 75.
Et vous êtes allé dans quel quartier par la suite?
Ben, à l'époque, mon père pensait que le plus sûr, c'était le quartier de Léoubi. Il avait raison. Ils vont pas toucher à la région, le quartier américain, on va dire. L'université, Léoubi, c'est l'université américaine de Beyrouth. Et malheureusement, on est quitté avec rien. On avait des valises vides. Il y avait à peine quelques petits trucs. Parce qu'on pensait justement quitter d'un quartier à l'autre. Et de là, on a dû partir, parce que ça s'aggravait. Et depuis, je ne suis plus rentrée au Liban.
Quel souvenir gardez-vous du Liban d'avant la guerre?
Enfin, j'ai plein d'images. J'ai quitté à 15 ans, donc j'étais assez âgée, on va dire. Donc j'ai plein de souvenirs, bien sûr. Mais le Liban d'avant la guerre, de mon point de vue, en tout cas d'enfant et d'adolescente, était très riche culturellement, surtout. J'avais la chance d'avoir des parents qui nous amenaient beaucoup au théâtre. Moi, j'ai grandi avec toutes les pièces de théâtre féroce de l'époque. Donc, j'ai eu la chance de voir vraiment de très belles chorégraphies et de très beaux spectacles. J'ai eu la chance de voir des beaux films. J'ai vu Docteur Zhivago, je devais avoir 3-4 ans. Donc, tout ça pour dire que le Liban d'avant la guerre était très très riche culturellement. Et bien sûr, je ne me rendais pas compte de toute la complexité. N'empêche que j'ai grandi déjà 3 ans, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai ouvert mes oreilles avec la BBC en langue arabe. J'étais très jeune, donc 3 ans, qui toujours avait Rona à London, qui avait un ton très dur, qui racontait toujours, je me rendais compte déjà que c'était grave, la guerre, Israël, voilà, des problèmes. Et donc j'ai grandi dans ce Liban qui était assez beau, parce que bon, c'est mon pays, je pouvais pas juger par rapport à autre chose. La mer de Tyr, Beyrouth, la montagne, mes parents avaient cette possibilité de nous faire voyager au Liban. Mais en même temps, c'est toute cette période, donc, de 67, j'ai vécu quand même ce qui s'est passé en 67.
La guerre israélo-arabe.
Oui, c'est-à-dire que nous, on, en tant qu'enfants, on avait la répercussion. C'est-à-dire qu'il y avait une gravité. J'ai jamais grandi dans un Liban paradisiaque, parce que il y avait toujours des tensions que je recevais. Directement ou indirectement, à travers la radio, les journaux, les parents qui s'inquiétaient, 73, l'école, on était conscients politiquement. Moi, en 70, je me rappelle qu'on parlait politique à 10 ans.
La chorégraphe franco-libanaise Lamia Safiadine, elle était l'invitée de Parcours ce week-end, émission que vous pouvez réécouter sur radioorient.com. Enfin, la mort de Christophe Izard, le père de L'île aux enfants, célèbre programme pour la jeunesse à la télévision dans les années 70. Il était âgé de 85 ans. Cette édition est terminée. À 12h30, le journal en arabe avec Roger Khoury. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.